Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Planète Business, le podcast qui décrypte les enjeux économiques qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, capturons un sujet au cœur des préoccupations africaines, la responsabilité sociétale des entreprises au service d'une alimentation durable. Dans un contexte marqué par la pression démographique, les défis climatiques et la sécurité alimentaire, les entreprises ont désormais un rôle clé à jouer. Produire mieux, consommer autrement, innover localement. Et la RSE donc peut-elle aujourd'hui transformer nos systèmes alimentaires en Afrique? C'est toute la question que nous allons donc explorer ensemble avec notre invité. Il s'agit de M. Djibril Niang, qui est le directeur exécutif de JVE Sénégal. M. Niang, merci de nous faire l'honneur de participer à cette émission.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Alors, M. Niang, comment définir concrètement la RSE appliquée au secteur alimentaire en Afrique, à votre avis?
Bon, je pense que quand on parle... Déjà, merci pour l'invitation, merci aussi pour le sujet, je pense que c'est un sujet très important. Et moi, je pense que définir la RSE, ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, surtout dans le secteur alimentaire en Afrique, c'est pas simple. Mais ça doit être une conformité aux standards internationaux. Elle doit être territorialisée, inclusive et transformatrice. Donc, ce que je veux dire concrètement, c'est simple, en disant qu'il faut produire localement en valorisant la chaîne de valeur agricole africaine, garantir une alimentation saine, accessible et culturelle, qui est adaptée aussi à nos réalités, mais aussi réduire les impacts environnementaux. On ne peut pas parler d'Afrique et de RSE sans parler d'environnement. Donc aussi, tout ça va concourir à assurer des revenus décents aux producteurs. Mais ainsi, donc, on peut dire que la RSE devient ainsi c'est un levier, donc un socle pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Donc ça, c'est vraiment une définition ramassée, voilà, qui touche les secteurs dans le cadre de l'alimentation.
Et juste dans votre même ligne, hein, dans le cadre de cette sécurité alimentaire, entre autres, à votre avis, en quoi les entreprises peuvent-elles aujourd'hui contribuer à cette sécurité alimentaire, notamment sur le continent africain?
Bon, quand on parle des entreprises, moi je parle plutôt du secteur privé. Et je pense que c'est un secteur clé, donc qui peut investir dans la transformation locale pour un peu réduire les importations. Là, on en vient à tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils peuvent aussi aider à structurer les chaînes de valeur agricole et logistique. Ça, c'est un très grand problème et un très grand défi pour l'agriculture en Afrique. Ils peuvent aussi réduire les pertes post-récolte, donc tout ce qui est stockage, transport et tout ça, qui reste un très gros défi aussi. Donc, ils peuvent aussi développer des produits nutritifs et accessibles. Donc, il y a des privés qui travaillent exclusivement sur ça. Donc aujourd'hui, le défi n'est pas uniquement aussi de produire, mais d'organiser efficacement toute la chaîne alimentaire. Donc c'est une chaîne, c'est pas seulement la production, mais c'est la production, c'est le transport, c'est la vente et tout ça. Et sur toute la longueur de la chaîne, chaque maillon, il y a des entreprises qui peuvent intervenir et changer les choses. Donc voilà, donc c'est un peu ça.
Et changer les choses, aujourd'hui d'ailleurs, quels sont plutôt les principaux défis pour une alimentation durable en Afrique?
Bon, les principaux défis, il faut d'abord comprendre qu'ils sont systémiques. Donc, il y a tous ces défis qui sont liés au changement climatique. Voilà, quand on parle de changement climatique, on parle de tout ce qui est sécheresse, salinisation, perte de la biodiversité. Il y a aussi les défis liés aux faibles infrastructures. Je pense qu'on en a parlé, tout ce qui est route, énergie, chaîne de froid, chaîne de stockage et tout ça. Et aujourd'hui aussi, on parle de l'alimentation qui entre directement dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, en Afrique, il y a d'énormes pertes post-récolte. Les pertes post-récolte sont très élevées. Donc il y a aussi une forte dépendance aux importations alimentaires. Et il y a aussi le poids de l'urbanisation qui joue aussi parce qu'on perd de plus en plus les espaces agricoles. Donc tout ça, c'est des défis auxquels l'Afrique doit se mettre et prendre en charge, doit réfléchir, voilà, en gros.
Vous l'avez dit, hein, dans votre, je précise encore que vous êtes donc le directeur exécutif de JVE Sénégal. Dans votre travail, dans votre mission, vous êtes en collaboration avec plusieurs entreprises, plusieurs structures, et vous travaillez dans plusieurs domaines, dont notamment la RSE et aujourd'hui aussi sur l'alimentation durable. Existe-t-il des exemples réussis d'entreprises africaines qui engagées dans cette démarche, même au Sénégal par exemple?
Bon, si je me limite au Sénégal, je peux citer beaucoup d'entreprises. Par exemple, nous, en tant qu'organisation de la société civile aujourd'hui, dans le cadre de la RSE, nous avons un projet sur l'alimentation durable avec, par exemple, je peux citer l'entreprise, c'est Auchan. Donc, Auchan aujourd'hui investit dans l'alimentation durable. Et quand je reviens sur la question par rapport à que peuvent faire les entreprises, aujourd'hui, la formation aussi est très importante. On ne peut pas aujourd'hui parler de souveraineté alimentaire, on ne peut pas parler de réussite s'il n'y a pas des personnes qui sont formées, si les gens ne sont pas formés à la base. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la RSE, Auchan est revenu sur la formation à la base dans les écoles. Comment faire aimer les élèves les métiers liés à l'agriculture durable? Et on est en train d'investir dans des écoles au Sénégal. Il y a d'autres entreprises aussi qui sont dans le domaine de l'éducation à l'environnement, mais orientées au changement climatique. Il y a d'autres qui sont dans le reboisement. Par exemple, la Sonatel fait beaucoup dans le cadre de la RSE sur tout ce qui tourne autour des reboisements, du renforcement de la biodiversité et autres. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Il y en a beaucoup aussi qui sont dans le secteur de la gestion des déchets. Donc, beaucoup sont dans tout ce qui est collecte, tout ce qui est recyclage et tout ça. Donc, il y en a énormément. Et si on sort un peu du Sénégal aussi, on voit que dans chaque pays, il y a des entreprises qui sont éco-responsables, comme nous, on les appelle, qui vraiment investissent et qui mettent des moyens pour un peu absorber aussi tout ce qu'ils émettent en gaz à effet de serre dans la production. Donc, maintenant, il y en a aussi qui ne comprennent pas ce concept de RSE et qui, peut-être, ne font pas beaucoup d'efforts sur sa main. Nous, dans notre cas, on a beaucoup travaillé avec des entreprises qui font vraiment de la RSE.
Et parlons de cette RSE, c'est le moment de faire le point de l'actualité RSE en cette année 2026. Nous allons suivre ce point de l'actualité, la minute RSE, avant de revenir avec notre invité. Je rappelle, c'est M. Djibril Niang, directeur exécutif de JVE Sénégal.
Aujourd'hui, dans votre minute RSE, on parle d'une transformation profonde qui touche les entreprises partout dans le monde et de plus en plus en Afrique. La responsabilité sociétale, longtemps perçue comme un simple engagement volontaire, devient aujourd'hui un véritable levier stratégique. En Europe, par exemple, les entreprises sont désormais tenues de publier leurs impacts environnementaux et sociaux. Résultat, la RSE entre pleinement dans le champ de la régulation. Et en Afrique, la dynamique s'accélère clairement. Au Maroc, les critères ESG, environnement social et gouvernance deviennent un atout clé pour accéder au financement et rester compétitif. Sur le terrain, les initiatives concrètes se multiplient. À Rabat, des rencontres continentales rassemblent entreprises et experts autour de l'innovation durable. À Abidjan, des événements dédiés à l'économie responsable montrent que le sujet s'installe durablement dans l'agenda économique africain. Côté chiffres, les défis restent immenses. Près de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Un enjeu majeur donc qui pousse les entreprises à investir dans des solutions énergétiques plus propres et accessibles. Mais les signaux sont encourageants. Dans la mobilité verte, des entreprises innovantes lèvent des financements importants pour déployer des motos électriques dans plusieurs pays africains. Et dans l'agriculture, la structuration des marchés permet progressivement de mieux rémunérer les producteurs et de sécuriser les revenus. Aujourd'hui, la RSE en Afrique n'est plus une tendance, c'est une réalité en construction portée par l'innovation, les investissements ainsi qu'une prise de conscience collective.
De retour avec M. Niang, la thématique déjà abordée. Aujourd'hui, l'orientation aussi, c'est de savoir comment concilier rentabilité économique et responsabilité environnementale.
Il faut sortir de l'opposition classique. Déjà, il faut sortir de ce système-là où on est enroulé, où on est depuis des années. La durabilité, c'est une question d'opportunité économique. Donc, il y a la réduction des coûts, utiliser par exemple tout ce qui est énergie solaire, mettre en avant l'économie circulaire pour réduire les coûts. Il faut aussi aller vers l'accès aux nouveaux marchés, les marchés bio, marchés locaux équitables. Moins la distance est longue, mieux c'est. Donc, le marché bio aujourd'hui est un marché très rentable, retourné aux formes anciennes d'agriculture qui ne sont pas trop dépendants des énergies, de produits chimiques, et financer un peu tout ce qui est développement durable, parce que le développement durable aussi prend en charge tout ce qui est agriculture durable, tout ce qui est chaîne de valeur agricole et tout ça. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, il faut mettre en avant les pratiques agroécologiques aujourd'hui, qui ne sont pas trop dépendants en intra et qui font vraiment des trucs. Donc, c'est la nature qui répare la nature. Donc, l'économie circulaire aussi, comment aujourd'hui transformer les déchets pour avoir des composts, pour avoir des trucs, donc du plat au plat. Voilà, donc ça, c'est vraiment des alternatives. Maintenant, une entreprise durable est souvent beaucoup plus résiliente, c'est beaucoup plus compétitive que ceux qui ne le sont pas. Je dis par exemple, ceux qui sont dans le bio sont beaucoup plus compétitifs que ceux qui ne sont pas dans le bio. Ils finissent leurs produits avant que les gens n'aillent dans les autres produits. Et ça, il faut juste aller dans les rayons des supermarchés. Les produits bio finissent toujours en premier.
D'où la question à savoir, quel rôle pour les agriculteurs locaux dans cette transformation?
Ils doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter. Les donnes ont changé. La donne a changé. Ils doivent s'adapter à ce qui se passe maintenant. Ils doivent s'adapter au changement climatique. Ils doivent s'adapter à ces réalités-là que nous vivons aujourd'hui. Ils ne peuvent pas continuer dans ces anciennes pratiques-là et tout ça. Donc aujourd'hui, quand on parle du rôle des agriculteurs, donc il faut rappeler que la majeure partie de la population de l'Afrique dépend aussi de l'agriculteur. Mais aujourd'hui, ils sont souvent faiblement rémunérés. L'agriculture, on dit qu'en Afrique, c'est le métier des pauvres. Mal intégration au marché, donc les agriculteurs ne vivent pas pratiquement de leur agriculture, donc c'est des intermédiaires qui sont plus riches, des opérateurs économiques, des intermédiaires qui ne cultivent pas, qui sont plus riches que ceux qui cultivent. Donc quand on parle aussi de transport, de logistique, de transformation, voilà, tout ça, ça ne marche pas. Maintenant, il faut essayer de les organiser. Et la transformation va forcément passer par la réorganisation, comment les organiser en coopérative, comment les former, comment accéder aux nouvelles technologies et comment les intégrer, comment intégrer aussi tout ce qui est chaîne de valeur dans la production agricole. Donc, il faut des agriculteurs forts, parce que sans des agriculteurs forts, donc on ne peut pas parler de sécurité alimentaire, sécurité pour un pays.
Et les consommateurs en tant que tels, hein, sont-ils prêts à changer leurs habitudes alimentaires, parce que vous venez de parler d'adaptation, mais aussi dans l'autre sens concernant ces consommateurs?
Je pense que c'est là le problème. Mais je pense que de l'expérience qu'on a, les consommateurs sont prêts à changer les habitudes à condition qu'ils comprennent. Aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'il y a une forte dépendance sur des produits chimiques. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des consommateurs, des associations de consommateurs qui prennent le rôle au sérieux, qui vont au fond des choses pour faire des enquêtes et tout ça. Donc ça, on ne peut que saluer. Mais je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin de sensibilisation. Ils comprennent, mais pas beaucoup. Donc, il faut plus les sensibiliser. Il faut plus les trucs. Voilà, il y en a qui sont carrément dans cette transformation-là. Il y en a qui ne sont pas encore dedans. Ça reste entier. Voilà, les gens aujourd'hui, en matière de consommation, ils ne consomment que ce qu'ils voient. Voilà, maintenant, ils ne font pas le choix de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Voilà, et souvent aussi, ils consomment en fonction de ce qu'ils ont en termes de revenus. Voilà, donc ça aussi, ça joue. Donc maintenant, il faut essayer de conscientiser, voilà, et travailler sur ces formes d'agriculture qui va pousser les consommateurs à utiliser les bons produits.
Et dans ce cas de figure, aujourd'hui, autour des consommateurs et aussi des acteurs, quelles politiques, M. Nian, publiques, bien évidemment, ou partenariats, sont nécessaires pour aujourd'hui accélérer cette transition?
J'aurais préféré cette question avant celui des consommateurs parce que c'est là le problème.
Tout à fait.
En fait, c'est aux politiques publiques de comprendre qu'aujourd'hui, ils sont à travers les pratiques que nous menons dans le secteur de l'agricole, nous sommes en train de mettre les populations en danger. Donc c'est à eux de les comprendre en premier et de prendre les mesures. Maintenant, nous, les organisations, on peut sensibiliser les communautés, mettre la pression aux politiques publiques, sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent vivre de manière saine et tout ça. Mais c'est aux politiques publiques de définir les politiques agroalimentaires, de définir ces politiques d'alimentation saine et de protéger leur communauté et leur population. On ne peut pas continuer à empoisonner les populations et dire qu'on est en train de mettre sur pied des politiques publiques qui sont correctes. Donc je pense que le travail doit même commencer par ces politiques publiques-là. Mettre des politiques qui favorisent la pratique agroécologique, mettre des politiques qui favorisent une agriculture, une souveraineté alimentaire durable et qui est basée sur une production de carbone qui est très très bas. Donc je pense que c'est le socle même de la souveraineté alimentaire. Maintenant, tout ce qui reste seront des pions qui vont aider à mettre en avant ces politiques publiques-là, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les consommateurs. Ils doivent tous être alignés derrière ces politiques publiques-là. Maintenant, il faut qu'on ait des politiques publiques fortes qui peuvent proposer qui peuvent nous faire des propositions qui sont vraiment fortes et qui vont nous mener directement vers la souveraineté alimentaire. Tout repose sur les politiques publiques.
Et à retenir donc que l'alimentation durable en Afrique ne repose pas uniquement sur les États, mais aussi sur des entreprises capables d'innover, de s'engager et d'agir concrètement. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de votre émission Planète Business. Merci de nous avoir suivis. On en parle dans d'autres sujets et aussi à travers d'autres numéros de ce regard sur les défis économiques du continent. Monsieur Dubrivnian, merci encore de nous avoir accompagnés, de nous avoir étayés sur cette question de l'alimentation durable.
Merci beaucoup, Graham.
Merci également à vous. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur Planète Business, sur Medi1 Podcast. Au plaisir.